Interview.
1 Diwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Prisca Randriana. Bonjour.
Bonjour.
Prisca, vous êtes avec nous pour nous parler d'une exposition qui a lieu actuellement à la galerie Lavenel, au 61 rue Camille Buffardel, et cela pour jusqu'au 9 mai. Une exposition de poterie, céramique, de grès et diverses techniques dont tu nous préciseras la manière. Alors, cette exposition, pour toi
Il s'agit pour moi surtout d'un enjeu de visibilité parce que mon atelier se trouve à Poney-Saint-Auban. Je vends mes poteries, mais très peu dans le Diwa. En réalité, jusqu'à présent, jusqu'à très peu de temps, si on voulait m'acheter une poterie, il fallait venir directement dans mon atelier. Là, depuis quelques semaines, mes pièces sont chez François, à l'entrepôt. Et elles étaient déjà depuis quelques mois à Maison Oiseau, chez Julie. Mais voilà, en fait, je ne suis pas comme d'autres potiers bien visibles sur le territoire d'Iwa. Et donc, c'était vraiment cet enjeu-là. C'était aussi de faire découvrir mon travail au plus grand nombre. Voilà.
Cette passion de la poterie, c'était venu très tôt ?
Ah, alors là, pas du tout. Et c'est justement une chose qui ne cesse, finalement, quand je me raconte mon histoire, quand je me remémore mon histoire, c'est une chose qui ne cesse de me faire sourire. En fait, je suis historienne de l'art. J'ai enseigné les arts plastiques longtemps. Je pense avoir une bonne culture de l'art et des arts. Et j'ignorais à peu près tout de la céramique jusqu'à il y a quelques années, il y a peut-être 4-5 ans. Non, en fait, j'ai beaucoup snobé les départements de céramique des musées nationaux et parfois européens que je visitais. Et puis tout à coup, il y a une sorte de révélation. J'ai découvert la poterie d'abord d'un ami, potier. J'ai commencé à lui acheter des œuvres. Puis ensuite, j'ai commencé à lire des ouvrages sur la poterie. Puis je suis allée voir des expositions un peu partout en France, grandes expositions rétrospectives de l'histoire de la céramique. Il y en a eu quelques-unes à Paris ces dernières années. Et puis me voilà, il y a 4 ans, en juin 2022, donc presque 4 ans, mais pas tout à fait encore, apprenti céramiste chez moi. dans un tout nouvel atelier et voilà, je mets en route et je cuis, je fais ma première cuisson donc il y a 4 ans. Donc c'est vraiment finalement un itinéraire très récent.
Le grès est la matière principale avec laquelle tu travailles ?
Oui, absolument. Mes poteries sont des poteries de grès parce que j'aime le travail à haute température. Donc c'est une argile qui est cuite et qui devient étanche à 1250-1280, voire au-delà. Et donc, ouais, c'est une argile que je ne peux pas collecter dans la région, contrairement à de nombreuses matières que j'emploie à la surface de mes poteries. Le grès, je l'achète. C'est un grès de Saint-Amand, il vient de Bourgogne, Saint-Amand puisé. Mais dans ce grès, j'ajoute des éléments tels que les sables de rivière, des granites, du basalte, qui vont donner un peu de vie à cette matière qui a été très raffinée quand elle sort de chez le distributeur. Et donc oui, je travaille le grès, un grès que je transforme dans mon atelier, et ensuite, à la surface, donc la couverte de mes pots, les couvertes sont réalisées avec des matières que je collecte dans la nature, en partie, pas intégralement. Ça me semble presque difficile puisque la silice qui crée le vert en fait de l'émail, l'émail est une vitrification. La silice est très difficile à broyer. C'est du quartz, hein. C'est une roche très dure. Donc, j'achète la silice, mais sinon, j'ai des kaolins, des sables, des terres aussi, des terres de basse température que je collecte dans la nature et que l'on voit à la surface de mes pots.
À l'origine de cette passion d'histoire de l'art, hein, notamment, est-ce qu'il y a eu cette rencontre avec la céramique préhistorique ou antique, et est-ce qu'il y a une transmission ou peut-être un retour de technique que tu essayes d'opérer, de retrouver?
Oui, je suis intéressée effectivement par l'histoire, par l'antiquité, par les formes antiques. Là, à la galerie Venelle, on voit des bouteilles, des vases qui peuvent lointainement rappeler des amphores ou des formes, oui voilà, des formes de la céramique grecque. C'est vrai que je suis intéressée par l'Antiquité, puis je suis intéressée aussi par des manières très primitives, très archaïques en fait de façonner, puisque j'aime le modelage, j'aime le travail au colombin. Dans ma céramique, j'aime aussi laisser en fait les traces de ce geste visible. Dans l'exposition de la galerie, on voit des pièces qui ont presque systématisé une manière de faire hybride, c'est-à-dire que je commence au tournage et puis je finis mes pièces dans des gestes de modelage. Oui, il y a effectivement quelque chose de l'histoire qui infuse dans ma poterie, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai des pièces qui ont un aspect un peu baroque rococo. J'ai des pièces qui font vraiment penser à des poteries cérémonielles du Japon. Enfin voilà, c'est un espèce de de mélange syncrétique de tout, mais de tout ce qui m'intéresse finalement, je ne m'interdis rien.
Il y a quand même une teinte qui ressort souvent, c'est cette blancheur aussi, obtenue donc par la silice, j'imagine,
notamment.
Et des kaolins. Et il y a donc cette proposition de forme faite plutôt par modelage, hein, même si au départ, tu utilises peut-être un tour pour donner cette forme primitive et puis ensuite de la malaxer, de la retravailler. Et cette proposition, cette union avec les teintes, les émaux, il y a cette part libre aussi de cette matière à s'exprimer sur tes propres formes.
Absolument. En fait, j'interviens très peu au niveau chromatique sur l'expression des matières qui composent mon émail. C'est-à-dire que dans mon émail magnésien, c'est-à-dire cet émail blanc qui recouvre un très grand nombre de mes pièces, cet émail blanc, il y a de la silice, il y a de l'alumine, il y a du kaolin, il y a une poudre de marbre qui va remplacer le carbonate de calcium habituellement employé par les potiers. Et en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est-à-dire que c'est la matière qui se transforme et qui va donner ce blanc laiteux, un peu sucré à la surface. Et lorsqu'il y a des couleurs, il s'agit de l'oxyde de fer contenu dans quasiment toutes les matières de la croûte terrestre et notamment aussi dans les cendres de végétaux que j'emploie pour créer des éléments plus vitrifiés, plus brillants, avec un tressaillage très expressif aussi. Et en fait, la couleur obtenue, parfois jaune, parfois vert, bleu, légèrement gris, ces couleurs-là sont des expressions différentes du même oxyde, l'oxyde de fer. J'interviens pas davantage. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça, quoi. C'est de faire comme un relevé, une mise à l'épreuve, une révélation, en fait, des matières qui composent les mailles ou les engobes. Et j'ai un émail, un engobe vitrifié dans l'exposition qui est très très sombre et il s'agit tout simplement d'une argile qui était violette, extrêmement riche en oxyde de fer, certainement un peu de manganèse aussi, et qui s'exprime ainsi à la cuisson. Voilà, c'est vraiment ce qui m'intéresse.
Il y a cet aspect chimique aussi qui t'intéresse et tu à la recherche aussi de formules anciennes ou tu les crées toi-même peut-être pour avoir cette constance de proposition?
Oui, je suis amenée à créer moi-même mes compositions, les formules de mes émaux, tout simplement parce que je travaille avec des matières que je collecte moi-même. Et donc, il est très difficile pour moi d'avoir la composition exacte de ces matières. Et donc, leur transformation passe par, moi, l'obligation de les tester et de trouver moi-même une formule pour les faire fondre. C'est un travail effectivement. Alors c'est quand même assez drôle parce que en quatrième, je crois, j'avais décidé que j'étais nulle en sciences et que de toute façon, c'était même plus la peine d'aller en cours de physique chimie. J'ai beaucoup déserté en fait les cours de sciences au collège, au lycée. J'étais dans une spécialité littéraire puis artistique. Et en fait, voilà, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que je passe quand même énormément de temps, en tout cas dans mon atelier, à manipuler des questions qui sont liées vraiment à la chimie, quoi. Et qui me fascinent, en fait, aujourd'hui, qui me fascinent réellement.
Est-ce que, étant historienne, tu as pu aussi étudier ces céramiques anciennes? Est-ce qu'elles avaient aussi cet attrait pour... Des produits chimiquement liés et qui produisent un certain émaillage ou un revêtement?
Oui, mes connaissances liées aux poteries anciennes sont plus récentes. Elles viennent en des quelques années depuis le début en fait, de ma pratique céramique. C'est vrai qu'en fait, dès le départ, je me suis attelée à comprendre la manière dont l'argile et les matières en présence là, fonctionnent. Mais j'ai aussi énormément lu d'ouvrages d'histoire. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui est assez fort dans le fait d'être potière aujourd'hui, c'est ce sentiment effectivement de faire partie d'une famille millénaire, quoi. Et ça m'a fascinée, et ça, oui, j'ai étudié. Alors, donc, oui, ça ne vient pas de mes études d'histoire de l'art, mais d'études plus récentes. Effectivement, oui, je me suis intéressée, par exemple, à la sigillée des Romains. Ce que c'est que cette engobe qui vitrifie, qui est tellement fin qu'on a l'impression que la pièce est nue, qui pourtant est parfaitement étanche et brillante. Je connais la technique de la sigillée.
Il y a ces formes initiales très anciennes, elles avaient trouvé un certain idéal hein, dans cette proposition, de par sa fonction aussi, de sa pratique, de sa praticité. Est-ce qu'il y a peut-être une évolution des formes dans ces poteries ou ces céramiques liées à l'utile, par exemple? Je parle de ces corbeilles à fruits ou de bols. Il y a une évolution ou alors il y a quand même quelque chose qui stagne?
Alors moi vraiment, quand je vais dans les départements d'antiquité, que j'observe les poteries, les poteries jaumon du Japon, quand je vois ce qui s'est fait au IIe siècle avant notre ère, quand je vois les statuettes même de peut-être 20 000 ans avant notre ère, vraiment... J'ai beaucoup de mal, moi, à être dans l'idée d'une évolution. J'ai vraiment le sentiment, et en tout cas, moi, dans ma pratique, je reviens constamment à des formes anciennes, en fait. Je les regarde, je les observe, je les étudie. Elles m'influencent, sont des références directes, en fait, dans mon travail. Alors, évidemment, elles sont transformées. Il y a mes gestes, mes traces, mais non, j'ai une vraie admiration pour cette histoire. J'ai vraiment envie, moi, de me sentir faire partie, en fait, de cette famille.
Il y a aussi des propositions de vases, semble-t-il, avec des formes plutôt végétales hein, dans l'aspect. Ça, c'est un travail qui s'élabore comment aussi
Oui, alors là, il y a toute une partie de mon travail autour de ces plis, replis, un travail qui est lié à mon intérêt, à mon regard porté sur la géologie, en fait. En réalité, la plupart des gens voient, c'est vrai, c'est d'ailleurs très intéressant parce que moi, je ne l'avais pas perçu au départ, voient dans ces vases plis, donc on peut voir à l'entrée de l'exposition de la Venelle, dans ces vases plis, des éléments qui rappellent des coraux, des choses marines, quoi, comme ça. Et moi, ça m'était pas, c'était pas exactement l'idée que j'avais. Alors, j'accepte parfaitement cette interprétation. Hein, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la question d'un travail extrêmement long dans la confection, de plis, de replis, de pousser, de tirer cette matière qui est en fait extrêmement plastique et de voir jusqu'où ça peut aller, c'est-à-dire à quel moment ça craque, à quel moment ça fissure, à quel moment ça s'effondre. Et avec cette forme-là, qui à la fois s'élève et se plisse, je tente vraiment de ressentir ça, en fait, les limites, en fait, de repousser les limites de cette matière plastique. Et moi, c'est plutôt... des formations karstiques, comme on en voit sur le Vercors, qui pourraient être à l'origine en fait, de ces formes, enfin de l'idée de ces formes.
Ça me fait penser parfois à ce calcaire aussi, qui se vitrifie avec le temps, comme les stalactites ou stalagmites. Il y a aussi certaines poteries qui me font penser à ce peintre Morandi.
Ah oui.
Avec ces petites étagères où il peignait. Des petites poteries hein, en peinture, avec ce côté de vibration et en même temps de calme, hein, de silence même.
Absolument. C'est absolument ça. En fait, Morandi, j'ai beaucoup pensé à lui, mais d'ailleurs, dans le choix de réduire les formes que l'on voit à la galerie à des bouteilles et à des formes comme ça un peu élevées, des contenants, j'ai pensé à Morandi. Et effectivement, il y a quelque chose de très silencieux dans sa peinture. Je ne sais pas, qui vient peut-être de comment ces pièces sont ordonnées entre elles avec une parfaite harmonie. Peut-être ça vient de ce chromatisme un peu éteint aussi de ces peintures. Mais j'ai observé la peinture de Morandi. Et effectivement, peut-être bien que d'une manière pas vraiment consciente, ce titre pourrait venir de ce silence des natures mortes de Morandi.
Ces céramiques, donc, tu dis pouvoir les exposer actuellement donc, à la galerie La Venelle, sinon aussi chez toi, cet atelier à Poney-Saint-Auban. Il y a une ouverture de ce lieu pour le public, pour venir visiter aussi ce travail.
À La Venelle.
À La Venelle, mais aussi à ton atelier.
Oui, alors La Venelle, là, il va rester trois permanences. J'ouvre la galerie les mercredis et samedis, de 10h à midi, puis de 16h à 19h. Donc, il va rester deux permanences, finalement, jusqu'au 6 mai. Et puis, sinon, on me retrouve chez moi. Il faut juste m'appeler, me contacter et puis je donne un rendez-vous. Et c'est le mieux parce que je suis généralement dans mon atelier, hein, je travaille tous les jours. Mais si je veux avoir un petit peu de temps pour m'occuper des personnes qui visitent, il vaut mieux que je sois prévenue.
Les pièces présentées sont-elles uniques ou alors font-elles partie parfois d'une série ?
Oui, alors... elles sont uniques dans leur forme. Elles sont uniques dans leur forme, dans leur couverte. Après, elles participent de séries plus vastes, par exemple les vases plis, par exemple les bols taillés ou les petites bouteilles. Et j'aime bien en fait cette idée à la fois de famille, de cette idée sérielle et de la variation qui là reste infinie d'une pièce à l'autre. Alors par contre, chez moi, dans mon atelier, on voit aussi de l'utilitaire, des assiettes, des bols, des tasses, des gobelets qui eux seront plus sérialisés. C'est-à-dire que j'ai des cotes pour mon assiette et je tente d'avoir des assiettes 12 de cette cote avec un émail qui pourra se ressembler d'une pièce à l'autre. Mais l'émail blanc magnésien que j'emploie est extrêmement versatile. Il fait vraiment ce qu'il veut. Et en fait, d'une pièce à l'autre, il y a toujours des variations assez plus ou moins attendues, quoi.
C'est une couche très sensible à son support, plus ou moins avec son épaisseur. Il y a quand même une forme assez constante dans l'épaisseur. Ou alors ces petits aléas qui amènent chacune de ces pièces une particularité.
Absolument, oui. Ce qui va faire réagir un émail, pas uniquement le mien, la plupart, hein, de toute façon, mais le mien est particulièrement sensible à cela. Ce qui fait réagir un émail, c'est aussi le tesson, c'est-à-dire le support, la terre sur laquelle il est appliqué, et la manière dont l'émail est appliqué. Alors moi, j'applique l'émail quasiment toujours au pinceau, ce qui me permet de créer des variations d'épaisseur. Et ma terre, comme je l'expliquais au début, est très riche, enrichie d'éléments qui vont réagir de concert avec la couverte et qui vont vraiment produire parfois un bleuissement de l'émail ou un jaunissement de l'émail. C'est parfois vraiment spectaculaire ce qui se passe à la surface. Et ça, c'est le tesson, c'est la terre, en fait, qui fait réagir l'émail. Donc effectivement, il est presque toujours le même, bien que j'ai mis quelques variations dans ces applications. Mais la terre, surtout, créera cette multiplicité de production.
Et tu proposais des formes plus élaborées, plus contemporaines, je dirais.
Oui.
Cette espèce de... Ça ressemblait à une culotte, je ne sais pas.
Oui.
Je sais pas quel terme on peut donner à cette pièce.
Mais c'est vrai que c'est marrant. Ouais. C'est de grosses pattes éléphantesques qui pourraient rappeler quelque chose d'un peu totémique, comme ça, une grosse pièce noire de mes tout débuts, il y a 3 ans peut-être.
Ouais. Et justement, au-delà de la poterie, est-ce que tu, en t'appuyant sur l'histoire de l'art, est-ce que tu es à la recherche aussi de ces formes un peu étranges qui interrogent même dans leur vision et de savoir quelle utilité pourrait-on en tirer?
Oui, alors parfaitement. En fait, là, depuis très peu de temps, j'essaie de me dégager, de me détacher petit à petit du travail utilitaire, du travail de l'usage, tout simplement, et de rentrer dans un champ plus sculptural, où là, les formes produites, et j'ai quelques esquisses, en fait, de ce travail, de ce travail embryonnaire, j'ai quelques esquisses dans la galerie, sont des formes qui peut-être interroge, déstabilise, évoque des tas de choses sans, de manière évidente, exprimer une chose. Et en fait, ce sont des gestes que j'affectionne particulièrement, simplement de récupérer des rebuts d'atelier, parfois des éléments tournés, qui ont mal fini, des cotillons de tournassage, de la terre battue, ces éléments qu'on trouve dans tous les ateliers de potiers, hein, et que j'assemble, que j'observe déjà d'une manière nouvelle, c'est-à-dire non plus comme des rebuts, mais comme un potentiel d'autre chose, et puis que j'assemble. Et ces petits éléments, parfois assemblés avec beaucoup de minutie et d'autres fois avec des gestes assez brutaux, assez vifs, ces éléments deviennent sculptures. Et oui, je suis intéressée en fait par la céramique contemporaine, je suis intéressée par la céramique art. J'aimerais que ce soit une branche à part de mon travail, parce que j'aime vraiment fondamentalement aussi la poterie d'usage. Mais voilà, je m'intéresse, oui, depuis quelques mois à des manières de faire nouvelles et à un regard nouveau, en fait, sur mon travail.
Notamment, ces quelques pièces aussi présentes à cette exposition, qui sont très sombres, noires même, qui sont élaborées avec, des languettes de terre qui sont assemblées et élevées.
Oui, absolument. Il y a 2 pièces noires à l'étage, Trois pièces noires à l'étage, et une petite pièce bleuâtre, peut-être à l'entrée. Ouais, c'est vraiment... Il y a à la fois, là-dedans, des gestes très ludiques, des gestes très spontanés, et puis aussi quelque chose que j'aime bien, moi, c'est toujours de pousser au plus loin les limites, jusqu'à quand ça va tenir, quand est-ce que ça va s'effondrer. Ces pièces-là, a priori, si elles sont arrivées à la galerie, c'est qu'elles ont survécu, mais... elles se déforment, en fait, dans le four. Donc, le four participe aussi de leur élaboration. Notamment, une des pièces les plus... à la surface, la plus métallique, hein, qui était très, très riche en oxyde de fer. Donc, la cuisson réductrice l'a métallisée, littéralement. Cette pièce-là avait une forme totalement différente quand je l'ai posée dans le four. Et elle a fondu, elle s'est écroulée sur elle-même. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait cette possibilité-là aussi, en courant ce risque, d'avoir une collaboration, une co-création entre moi et mon matériel four. Et c'est une super expérience que j'aimerais poursuivre.
Et inversement, au lieu de l'affaissement, plutôt de l'étirement, si elle est suspendue pendant la cuisson?
Ouais, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est formidable comme idée. Oui, oui.
Ouais. Non, mais je posais la question, ouais, ouais. Tout simplement. Ouais. Est-ce qu'on peut maintenir suspendue une pièce en cuisson?
Ce serait la difficulté, c'est de trouver un appareillage qui permette la suspension, d'autant qu'en fait, on monte à très haute température, donc il faudrait des matières qui supportent en fait, ces températures-là. Mais effectivement, on pourrait peut-être obtenir ainsi des événements de coulée, en fait. Ouais. Ouais. Ce que j'adore à la surface de mes pièces, hein, mon émail coule, au point où très souvent, je retrouve ma pièce engluée dans une flaque d'émail voilà, au fond de la plaque, quoi, sur la plaque. Mais oui, c'est intéressant, cette idée.
Je pense à ces petites pièces noires. L'une m'a fait penser à ces enchevêtrements de fibres, de quelque nature qu'elles soient, mais qui opèrent une structuration d'une forme... tel qu'un végétal, par exemple, où une tige est constituée de nombreux fils, avec parfois des anneaux qui maintiennent une certaine distance ou un certain diamètre. Enfin, est-ce qu'il y a aussi ce côté un peu d'anatomie végétale?
Oui, c'est intéressant. En vous écoutant, moi, je pensais aux photographies de végétaux vues de très près de Karl Blossfeld, je crois. Hein, c'est ainsi qu'il s'appelle. Et c'est vraiment intéressant de voir cette structuration ultra symétrique parfois. Et si, comment, avec une perfection dans l'ordonnancement, en fait, effectivement, des nervures, des éléments qui participent de la plante. Ce sont des images qui ont pu me fasciner. Elles ne sont pas, enfin, cette référence n'est pas présente consciemment directement dans mon travail d'atelier. Mais je suis intéressée par la question de d'une forme qui, par sa répétition, crée une structure. Ça, c'est vrai, oui. Et que l'on peut voir, effectivement, de manière, encore une fois, c'est juste un commencement, mais que l'on peut voir dans mon travail de sculpture.
Au-delà de l'histoire de l'art et de cet artisanat qui est la poterie, il y a la représentation figurative. Est-ce que tu en tiens compte? Est-ce que ça évoluerait vers une proposition telle dans le temps pour ton travail?
Oui, c'est vrai que je ne suis pas... très sensible, en tout cas dans mon travail, à la figuration. C'est vrai que j'ai été peintre, dessinatrice, mais je dessine pas et je peins d'une certaine manière, mais je ne dessine pas, en tout cas, à la surface de mes peaux. Je ne représente pas, ou en tout cas, ça n'est pas l'objet de mon travail, la représentation. Je ne suis pas sûre d'aller vers ce chemin-là.
C'est plutôt la matière par elle-même, donc, oui. Qui s'exprime. Être potier aujourd'hui est un métier confortable, ou alors ça nécessite parfois une activité annexe pour arrondir ses fins de mois?
Ah oui, c'est un métier très peu confortable. Alors moi, j'ai décidé pour l'instant, je me donne comme ça encore quelques petites années, pas trop longtemps, mais parce que je ne vais pas pouvoir tenir si longtemps, mais de petites années pour voir si je peux vraiment vivre un peu plus confortablement de la céramique. Et on verra ensuite. Pour l'instant, je suis toujours en disponibilité de l'Éducation nationale. J'ai un grade et a priori la possibilité de revenir sur mon poste. J'étais enseignante. Non pas revenir sur mon poste, mais revenir dans l'institution.
Ouais. Dans la transmission, en tout
oui,
cas.
Oui, donc on pourrait penser à ça. Mais c'est vrai que, pour tout le monde, hein, je pense, hein, pour tous les petits, ce n'est pas si facile.
Ces présences à la galerie Lavenel donc, auront lieu ces mercredi et samedi prochain jusqu'au 9 mai. Les horaires sont de quel ordre ?
Oui, donc à Lavenel, 10h midi, 16h, 19h. En fait, ce sont les jours de marché, mercredi et samedi. Voilà.
Et puis, pour un prochain temps, je vois aussi les 6 et 7 juin, tu seras présente au marché de Girosens. Ça, c'est où ?
Girosens se trouve très près de Toulouse et c'est un marché qui est assez renommé. C'est un marché que j'attends avec hâte. Alors il y a d'autres marchés hein, cet été, des marchés de potiers toujours, hein, des marchés salons de potiers. Je ne les ai pas tous listés sur Instagram, mais voilà, je vais être pas mal sur les routes dans le Grand Sud-Est et parfois un peu plus loin même cet été.
Ces pièces pétries à la main opèrent en quelque sorte un rythme aussi, celui de ses doigts qui tournent autour de cette forme, par pression également. Est-ce que ça me fait penser un peu à ces cadrans d'heures, avec le marquage du temps par trait je ne sais pas s'il y a une considération à prendre sur le rythme.
Oui, moi je suis vraiment, vraiment sensible à la question du rythme. Bon, pas simplement parce que je suis musicienne, hein. Je pense que ça vient vraiment de quelque chose, moi, qui me parle. Et effectivement, quand je modèle, et notamment les petites pièces pincées, alors, le pinçage, ça consiste à partir d'une boule de terre que l'on va creuser avec le pouce et ensuite étirer par un geste constant, répétitif, rythmé, effectivement, jusqu'à obtenir une forme évidée, bol, gobelet, etc. Et effectivement, je me mets parfois dans un sentiment presque méditatif où le geste rythmé, répété, est guidé par lui seul. C'est-à-dire que moi, je suis un peu ailleurs, à la fois là et pas là. Ouais, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans le rythme, mais aussi dans mes gestes de sculpture, dans les gestes où j'évide et là où j'enlève de la matière. Je ne fais pas simplement que l'étirer et la repousser, mais je l'enlève aussi. Il peut y avoir comme ça des rythmes soit très rapides, et ça, je suis intéressée par ce que ça donne à la surface, la rapidité, ou au contraire, très doux, très lent. Je crois que les personnes qui observent la surface de mes pièces voient ça, cette dimension rythmique du geste.
Cette formation rythmique de ces pièces, est-ce qu'elles appellent aussi une musique en toi, toi musicienne ? Est-ce que la musique a sa part dans la création ?
Alors justement, j'ai longtemps réfléchi au titre de cette exposition et je n'ai pas voulu finalement donner des termes définitifs à l'expo avant de voir toutes mes pièces rassemblées dans une salle. Et donc le titre de l'expo est arrivé assez tardivement. Et le mot de silence est ultra important pour moi parce qu'en fait je travaille dans le silence absolu. J'ai besoin en fait d'un environnement hyper calme, concentré, où j'entends ma respiration. Et effectivement, moi qui suis musicienne, je ne peux pas travailler en musique et je n'ai pas de musique non plus réellement en moi au moment où je travaille, au moment où je modèle mes pièces.
Effectivement, j'avais omis de titrer cette émission « Le silence rugueux des roches ». C'est la proposition donc, que l'on peut découvrir jusqu'au 9 mai à La Venelle, au 61 rue Camille Buffardel. Eh bien, Pliska, merci beaucoup de ton passage à Erdua pour nous parler de ton travail. Et puis, on peut toujours te visiter à l'atelier au 35 impasse de la Magnanerie à Poney-Saint-Auban. Hein.
Oui.
Il y a possibilité de prendre contact avec toi, justement, à la Galerie La Venelle pour prendre rendez-vous. Il y a une page Instagram aussi, pliska.randriana. Là, je pense qu'il y a un moyen de se contacter et de correspondre.
Merci beaucoup, Yves, pour cet échange très riche.
Et bonne fin de journée.
Merci.
Au revoir.
Deco Tower, rainbow fountain shower, crystal column, silver tabloid entry. The celebrity century. A faded train of the golden age. It flickered out into celluloid ashes. Phantasms, fantastic, outran the avalanche, outran the avalanche, outran the avalanche to the cameras rolling. We beat the drum. Outran the avalanche to the camp.